Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
L'économie n'attend pas. Elle bouge, elle évolue, elle vous surprend. Rejoignez votre hôte, Othman Lamziri, alors qu'il explore et expose toutes les facettes du monde des finances. Bienvenue dans l'économie en mouvement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'économie au mouvement. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène qui façonne notre conversation, qui influence notre décision plus ou moins et aussi qui transforme nos économies. Et je peux dire même, il fragilise même nos démocraties. Alors, j'aimerais bien discuter un peu sur un phénomène qui s'appelle la désinformation. On vit dans un monde où l'information circule plus vite que jamais. Un monde où une vidéo montée en Discord peut devenir quand même virale, ou aussi un simple tweet peut déclencher une crise, ou même une rumeur peut déstabiliser une entreprise, ou un deepfake peut mettre en doute la parole d'un chef d'État. Jamais dans l'histoire humaine, on a eu autant d'accès à l'information. Ah oui, jamais. Et en même temps, jamais on a été autant exposé au mensonge. Alors, la désinformation, ce n'est pas juste des fake news. C'est un système complexe qui touche notre économie, qui touche nos entreprises, notre comportement et même notre rapport à la vérité. Elle peut manipuler des marchés, influencer des élections par exemple, affaiblir des institutions, créer de la peur, du doute, de la division. Et souvent, elle circule tellement vite que la vérité, je peux après donner des exemples, et n'a même plus longtemps de se défendre. Alors, dans cette série, dans ces chroniques d'aujourd'hui du 7 décembre, le dimanche 7 décembre, on va essayer de comprendre ce phénomène en profondeur. On va explorer comment la désinformation, la mésinformation fonctionne, pourquoi elle est si efficace, comment elle touche les entreprises, comment elle devient une arme géopolitique, et surtout, comment on peut se protéger individuellement et collectivement. La désinformation aussi est peut-être l'un des plus grands défis de notre époque. Et je le vois aussi l'un de ce qu'on peut affronter si on prend le temps de vraiment comprendre ce qui est en jeu. Alors voilà, aujourd'hui, on ouvre un chapitre vraiment important, un chapitre qui touche tout le monde, directement ou indirectement. Celui de la vérité, de la confiance, de la manière dont nos sociétés peuvent encore tenir debout dans un monde saturé du récit contradictoire. Alors, je vais directement commencer la première chronique qui porte sur tout d'abord comprendre la désinformation, ses mécanismes, l'économie, l'impact humain et enjeux contemporains. Alors voilà, la désinformation. Alors, ce mot, on l'entend chaque semaine, parfois chaque jour, mais on ne réalise pas toujours à quel point il influence notre société ou bien il peut même influencer nos décisions économiques, nos relations, notre rationalité, notre confiance et même notre démocratie. Alors, dans cette première chronique, on va vraiment essayer de comprendre ce phénomène, de le vulgariser dans sa profondeur. Comment il fonctionne, pourquoi il marche, pourquoi il coûte si cher à nos économies et comment il transforme notre comportement humain. Alors, on commence par un point de base. Le premier point qui est vraiment crucial, il y a la désinfo, qui est la désinformation, et il y a la mésinformation. Tout d'abord, la mésinformation, c'est la diffusion d'une fausse information sans intention de nuire. Par exemple, quelqu'un qui partage quelque chose qu'il pense vrai, mais qui ne l'est pas. Et contrario à la désinformation, elle est vraiment intentionnelle. Il y a un but derrière. Par exemple, de manipuler, d'influencer, semer le doute, déstabiliser, diviser. Et cette distinction change tout. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que la majorité des gens qui partagent des contenus trompeurs ne sont pas des agents mal intentionnés. Ils sont juste des utilisateurs normaux, comme nous ici, pris dans un système qui encourage de la rapidité plutôt que la vérification. Si on devait résumer en un mot ce qui est attention, c'est vraiment la ressource rare de notre époque. La plateforme numérique ne vend pas des informations. Elle vend notre temps d'écran, notre réactivité et nos clics. Les algorithmes, par exemple, favorisent ce qui marche, ce qui choque, ce qui fait peur et aussi ce qui provoque et ce qui divise. Et puis la désinformation maîtrise parfaitement les émotions suivantes. Ça veut dire, elle maîtrise la colère, elle maîtrise la peur, l'indignation, la surprise et parfois même le rire. Ce sont ces émotions qui créent l'engagement. Et puis voilà, l'engagement, c'est littéralement le carburant économique des réseaux. C'est ça qui explique pourquoi une fake news peut faire le tour du monde en quelques heures, pendant qu'un communiqué officiel, lui, vraiment, il reste noyé dans la masse. Et beaucoup de gens pensent que la désinformation, c'est juste un problème de naïveté ou même d'éducation. Et voilà, en réalité, c'est un business model. C'est vraiment quelque chose qui est planifié. Un marché colossal où chacun a quelque chose à gagner. Il y a comme des créateurs de contenu qui monétisent le trafic, des sites douteux rémunérés par la publicité, des pages qui vendent leur audience, des groupes idéologiques aussi qui cherchent à influencer et même des gouvernements étrangers qui ne veulent pas affaiblir des sociétés démocratiques. Je ne vais pas donner des exemples en ce qui concerne la Russie, mais bon. Un exemple est souvent cité ici, c'est la fameuse ville de Vils, en Macédonie, pendant l'élection américaine de 2016. Alors, des jeunes, quand même, publiaient des fake news pour attirer des millions de clics et gagner des milliers de dollars via les pubs Google, par conviction politique et par intérêt économique, hein, vraiment pur. Alors, et ce modèle est encore plus puissant aujourd'hui. Je peux aussi citer quelques études, par exemple, pourquoi ? Parce que la désinformation bat la vérité. Alors, par exemple, MIT l'a montré clairement que les fausses nouvelles se diffusent 6 fois plus vite que les vraies et éteignent beaucoup de plus de personnes. Alors, pourquoi ? Parce que je vois que la vérité est souvent complexe. Elle demande du contexte, elle demande des nuances et du temps. La désinformation est vraiment quelque chose de simple, émotionnel, courte, sensationnel, et elle est pensée pour être partagée immédiatement. Alors que la vérité doit souvent être vérifiée, expliquée, référencée, documentée, rien qu'à ce niveau-là, les deux ne jouent pas sur le même terrain. On croit souvent que les gens se font avoir. Alors, en réalité, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça depuis des milliers d'années. Voici quelques biais exploités par la désinformation. Par exemple, le biais de confirmation. Je m'explique. On croit plus facilement ce qui confirme nos opinions. Je peux dire aussi le biais de disponibilité. Plus une idée revient souvent, plus on pense qu'elle est vraie. Il y a aussi le biais de négativité, où les mauvaises nouvelles attirent plus notre attention que les bonnes. Il y a aussi les biais d'autorité, ça veut dire si quelqu'un semble confiant ou légitime, on lui accorde du crédit. Ce ne sont pas des faiblesses individuelles, ce que je viens de mentionner, tout ce qui est... tout ce qui est biais. Alors, ce sont des mécanismes universels, car la désinformation ne crée pas de nouveaux défauts cognitifs, elle exploite ce qu'on a déjà. Alors, ici au Canada, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Ah, je peux répondre facilement beaucoup. Alors ici, par exemple, la désinformation touche des sujets sensibles, comme l'immigration, taxes de carbone, logement, politique de santé, programmes gouvernementaux, même des rumeurs sur la Banque centrale. On a vu récemment des fausses informations circuler affirmant que le Canada accueille 2 millions d'immigrants par an. Totalement faux, hein? Mais émotionnellement efficace. Autre exemple, je peux citer des publications qui affirment que la taxe carbone représentait 45% de la hausse des prix alimentaires. Encore faux, mais là encore, on peut voir dans les journaux, dans des publications, où il y en a vraiment des milliers de vues. Et au Québec, on observe souvent des campagnes visant à attaquer, comme le système de santé, l'éducation, Radio-Canada, les programmes d'intégration, même des décisions municipales. Alors, pourquoi? Parce que je pense que quand même, il y a la stratégie de la désinformation, elle est vraiment simple. On attaque tout simplement la confiance. Et quand la confiance, elle tombe, quoi, tout devient négociable, tout devient discutable, tout devient instable. Et quand même, la désinformation ne se limite pas à la politique. Elle touche les familles, les couples, les relations, les amitiés, et elle crée de la méfiance, elle nourrit la polarisation, elle fragilise la cohésion sociale, elle rend le débat public toxique, elle crée un sentiment d'insécurité ou d'inconfusion. Alors, on voit une montée de l'anxiété, la colère, la peur et surtout la perte de repères. Car une société qui doute de tout finit par ne plus croire en rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux. C'est vraiment quelque chose. Alors, la désinformation n'est pas seulement vraiment qu'un phénomène social. C'est une arme stratégique utilisée par certains États. On parle ici de campagnes de déstabilisation, ingérence électorale, manipulation d'opinion publique, ciblage de communautés fragiles, ou même amplification artificielle des conflits sociaux. Tout vient d'exemples de la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi des acteurs privés utilisent la désinfo comme un outil d'influence pour affaiblir la démocratie occidentale. Et vraiment, le Canada, avec sa petite population et son énorme territoire numérique, est vraiment une cible très fragile, très facile. Je ne peux pas dire fragile, mais bon, c'est très facile. Derrière tout ça, il y a un coût économique réel. La désinformation influence la confiance des investisseurs, les comportements de consommation, les marchés financiers, les décisions politiques, la réputation des entreprises et même la productivité. Et on estime qu'aux États-Unis, la désinfo coûte à peu près 78 milliards par an aux entreprises. En perte de productivité, en gestion de crise, cyber security, cyber risk, et en atteinte à la réputation. Et au Canada, les estimations sont plus modestes, mais on parle quand même de plusieurs milliards. Alors, pour moi quand même, la désinformation, ce n'est pas plus juste qu'un problème de médias ou des réseaux sociaux. C'est quand même défini le défi majeur démocratique du 21e siècle. Un défi qui touche nos institutions, nos familles, nos entreprises et même notre santé mentale. On vit une période où la vérité n'est plus simple à discuter. Elle est parfois quand même négociée, transformée, détournée. Alors c'était ça notre première chronique qui porte sur vraiment un peu la vulgarisation du phénomène entre voilà, la désinformation, la mésinformation, ou bien comme on peut dire en anglais, le misleading information. On passe juste après dans la deuxième chronique, après la publicité, la courte publicité, pour voir un peu le mode coopératif de la désinformation, comme impact économique, risque ou caché, pourquoi pas. Alors voilà, on va faire une courte pause sur les ondes de CFA 83 et puis on va enchaîner par une tune de Dire Straits. Je vais faire un cover de Martin Miller et Joe Smith. Alors juste après, la courte pause sur les ondes de CFA 83.